Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Il y a l'idée que la création africaine, c'est cheap, parce que ça dépasse pas 20 euros, que c'est un collier de perles. Or, il y a des Rabhi Kairouz en Afrique, il y a des Jacquemus, il y a des Isabelle Marant, il y a tous ces créateurs.
Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à leboncoin.fr. Bonne écoute.
J'avais un parrain qui, pour moi, était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel et dernier épisode de la saison 3, je reçois une femme de 46 ans qui a passé les 20 premières années de sa vie en Afrique de l'Ouest. Emmanuelle Courrèges est journaliste dans la presse féminine, mais l'écriture n'est pas la seule corde à son arc. Il y a 2 ans, elle a créé Lago 54, une plateforme de vente et de communication pour faire connaître les créateurs africains afin de changer les regards sur ce continent. Emmanuelle Courrèges est une enfant de l'Afrique et cela n'est pas sans impact sur sa vision de la mode et son rapport aux fringues. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Valérie.
Est-ce que tout est bon dans l'introduction ?
C'est exactement ça.
Alors tu as grandi entre le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Peux-tu nous parler de cette enfance en Afrique ?
Oui.
Tu es née là-bas ?
Je suis née au Cameroun. Alors pour être tout à fait exact, mes parents vivaient au Cameroun et ma mère est rentrée accoucher à Paris, comme ça tu sais tout. Et donc je suis arrivée au Cameroun, à Yaoundé, j'avais 1 mois. Et donc jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai d'abord vécu au Cameroun, ensuite au Sénégal et ensuite en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où j'ai passé mon adolescence. Et voilà, et donc oui, ça a eu un impact.
Ton papa travaillait dans la culture, c'est ça ?
C'est ça. Mon père dirigeait les centres culturels français à l'époque où c'était encore de véritables instituts, des instituts culturels, c'est-à-dire où il y avait... Le propos de ces centres, c'est vraiment de véhiculer la culture française dans ces pays. Donc un jour, on recevait l'Opéra de Paris. La semaine d'après, c'était Yves Coppens qui venait donner une conférence. Ensuite, c'était Jean-Michel Basquiat. Ensuite, c'était Luc Besson qui venait présenter son premier film, etc. Donc j'ai baigné dans un milieu très culturel pendant
toutes
ces années.
Et toi, toute petite fille, tu regardais tu les as rencontrés ?
Oui, ben je les ai rencontrés, mais tu sais, je vais être très honnête avec toi. Quand les gens me disent « Ah là là, mais t'as rencontré Basquiat ?» Oui, j'ai rencontré Basquiat, mais j'avais 13 ans et j'en avais juste rien à faire. C'était le cadet de mes soucis. Et surtout, je me souviens juste d'une chose, mon père voulait absolument... Mes parents l'ont emmené dans un village, Lacus, sur Piloti, pour lui faire découvrir un peu l'Afrique. Il était avec sa petite copine de l'époque, Jennifer. Et mon père
on va tout savoir.
Ouais, il me disait, il faut absolument que tu viennes, ça va te permettre d'exercer ton anglais. Donc, autant te dire qu'aller passer 2 heures ou 3 heures avec Basquiat, pour moi, c'était ça. C'était parler anglais, ça me saoulait.
Oui, tu t'intéressais pas à ses œuvres.
Non, bah absolument pas. Et c'est 20 ans plus tard que tu te dis, mais la chance que j'ai eue, quoi. Mais non, j'étais comme toutes les gamines du monde. J'étais beaucoup plus préoccupée par la boum qui allait suivre le week-end suivant ou le week-end à la plage.
Alors, j'ai lu un article sur toi et tu disais que finalement, tu es une enfant de l'Afrique. Est-ce que ça a eu un impact sur la femme que tu es devenue aujourd'hui, J'arrive plus à parler. Que tu es devenue aujourd'hui.
Forcément, parce que je vais pas faire de la psychanalyse à 3 francs 6 sous, mais l'enfance, l'adolescence, c'est quand même ce qui nous construit. Donc oui, ce continent a façonné la femme que je suis. Moi, j'ai tendance à dire, et je dis souvent, oui, que je suis... ça se voit pas parce que j'ai la peau blanche comme un bidet, mais oui, je suis métisse culturelle.
Tu y vas souvent ? Tu y retournes souvent ?
J'y vais très régulièrement et particulièrement. Je ne suis pas retournée, je suis retournée au Sénégal, au Cameroun comme journaliste. Mais sinon, je vais très régulièrement à Abidjan et au Sénégal, à Dakar et à Saint-Louis, où j'ai vécu aussi au nord du pays.
Alors, tu as fait tes études à Paris quand même, à 20 Paris. Ans.
Ouais.
Tu as été forcée de le faire ou c'était...
Oui, puis mes parents rentraient. Donc, de toute façon, comme ma famille est ici et que je n'avais pas de famille là-bas, enfin, non, je suis rentrée pour faire mes études et mes parents rentraient en même temps.
Tu as toujours rêvé d'être journaliste et puis, accessoirement, journaliste de mode aussi.
Alors, journaliste de mode, pas vraiment. Journaliste, en fait, quand j'étais ado, et j'ai encore retrouvé il y a quelques années des documents de chez moi, rangés dans des vieilles pochettes, je faisais déjà des sommaires, parce qu'au Centre culturel français que dirigeaient mes parents, enfin mon père en l'occurrence, il y avait une médiathèque, une bibliothèque, et toutes les semaines, on recevait le Elle, le Marie-Claire. Et donc, pour moi, c'était une fenêtre sur la France. C'était aussi une manière de me construire comme française, de voir toutes ces images, parce que j'étais entourée de femmes noires, de publicité. C'est tout le contraire des femmes noires qui, ici, sont entourées de femmes blanches dans la publicité. Moi, c'était tout le contraire, donc ça me permettait de me construire. Et puis, j'avais ce rêve de créer un Elle ou un Marie-Claire africain.
Ah oui, j'ai lu ça aussi.
Et qui n'aurait pas été quelque chose qui était, c'était pas pour les femmes noires, c'était pour nous et notre réalité au fond, parce que ce Elle qui arrivait en Afrique, ce Elle français, ou ce Marie-Claire, c'était complètement déconnecté de notre réalité. Donc l'idée, c'était vraiment ça. Donc je pense que c'est parti de là, et je te dis, il y a encore 2 ans, j'ai retrouvé dans des vieilles pochettes des sommaires de magazines que je faisais, et j'avais 17-18 ans.
Et c'était quoi ta réalité ? Tu dis qu'on était déconnecté de la réalité sur place.
Mais en termes vestimentaires, on n'était pas du tout... déjà l'hiver, pendant, on va dire, entre septembre, tous les L que je recevais à Abidjan ou à Dakar, entre le mois de septembre et le mois d'avril, c'était de l'hiver. Donc moi, j'étais en maillot de bain ou avec mon petit uniforme de l'école et avec des manches courtes et les pieds nus. Donc déjà ça, et puis c'était tellement pas la même chose. On vit une autre réalité. On a des préoccupations qui sont différentes, des goûts qui sont différents. La manière de consommer est différente parce que quand tu vis à l'étranger, moi je venais une fois par an seulement en France. En général, comme ma grand-mère, ma famille maternelle était à Paris, du coup on venait passer une semaine à Paris et après on partait à la montagne, etc. Donc j'avais une semaine pour faire du shopping pour tout le reste de l'année.
Parce que tu t'habillais en France à l'époque ?
Oui. Parce qu'en plus, quand tu es en Afrique, maintenant, ça a un petit peu changé parce qu'il y a des marques qui s'y sont installées. Mais à l'époque, le peu, tu devais avoir une ou deux boutiques à Abidjan qui vendaient de la mode européenne. Et c'était hors de prix parce que c'était importé. Donc en fait, oui, on nous voyait sortir des magasins avec 200 sacs, mais c'était un shopping pour toute l'année, quoi. On avait 40 culottes, on avait 40 jupes, on avait 10 paires de 10 sandales, 10 baskets. Voilà.
Alors, tu as créé... En plus d'être journaliste, que je disais dans l'introduction, tu as créé Lago 54. Donc, tu as quitté ta casquette de journaliste pour créer cette plateforme il y a 2 ans. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Parce que je trouve ça très intéressant.
Alors, Lago 54, j'ai plus ou moins quitté. Je n'ai pas vraiment quitté. J'ai quitté par la force des choses parce que monter une boîte, c'est chronophage, plus que je ne pensais. Donc, j'ai beaucoup moins écrit et je recommence seulement maintenant. J'ai créé cette plateforme parce que comme journaliste, donc comme je te disais, je continue à aller en Afrique. Je suis aussi des Fashion Week africaines pour le Vogue Italie depuis maintenant 4-5 ans. Et j'étais terriblement frustrée de voir qu'il y avait des talents incroyables et qui ne pouvaient pas être dans les médias auxquels je collaborais. Alors j'ai eu la chance, avec notamment Valérie Thoragnan-Ouel, de pouvoir faire des reportages sur des Fashion Week, mais c'était toujours des sujets de société. Montrer les produits, ce n'était pas possible, parce que c'est des magazines de consommation. Et donc du coup, si on montre un produit qui n'est pas disponible et accessible sur le marché en France... Bah, ça n'a pas de sens. La lectrice, elle va être frustrée, elle va trouver un panier, elle va trouver un bijou, elle va trouver un vêtement, une robe qui est très belle, et on lui dira, non, on ne peut pas l'acheter parce que ce n'est pas disponible ici. Et donc, en fait, c'est comme ça. C'est parce qu'il y avait un besoin que j'ai créé cette plateforme. Donc, c'est un e-shop où j'ai tout acheté.
C'est ça, tu as tout acheté, c'est ça qui était...
J'ai tout acheté, je suis folle à lier. J'ai tout acheté. Parce qu'en fait, c'était mon engagement en faveur de ces créateurs. Et puis, je leur fais des RP, des relations presse gratuites. Donc, du coup, beaucoup se sont retrouvés dans le Vogue, dans le Elle, etc. Et l'idée, en fait, c'est que c'est... mon ambition, c'était vraiment de casser les codes sur la création africaine. C'est-à-dire que quand tu parles de mode africaine, et tu le sais, aujourd'hui, avec le wax...
Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est ça qui m'intéresse dans ton projet, c'est que tu dis qu'il n'y a pas que le wax et les couleurs.
C'est ça, en fait, les gens... Alors, il y a le wax qui est devenu une véritable lame de fond aujourd'hui, une vraie tendance.
Très, très mode en France.
Très mode.
Avec Youssef...
Youssouf, Fofana, de Maison Château Rouge et tout ça. Les collabs avec Monoprix, avec tout ce qui s'est fait l'année dernière.
Mais ça, c'est peut-être un effet de mode qui va s'estomper aussi.
Oui, mais je crois que ça a permis aussi d'insérer assez durablement dans nos vestiaires... d'abord de la couleur, et puis je pense que ça va pas repartir aussi vite que ça. Je pense que maintenant c'est assez rentré dans les mœurs qu'on peut marier un petit top en wax ou un pantalon en wax avec une marinière. Ou moi j'avais surtout envie de montrer, parce que les gens quand ils partent en Afrique, souvent ils vont dans les marchés, ils rapportent un panier, ils rapportent des perles, ils rapportent un petit truc en wax, et finalement tout ça, ça dépasse jamais vraiment 15-20 euros. Et donc il y a cette idée derrière que t'es en train de me prendre en photo, ça me perturbe.
Je te filme.
Ah, tu me filmes en plus, mon Dieu. Que il y a l'idée quand même que finalement la création africaine c'est cheap parce que ça dépasse pas 20 euros, que c'est un collier de perles, etc. Or, il y a des Rabhi Kairouz en Afrique, il y a des Jacquemus, il y a des Isabelle Marant, il y a tous ces créateurs avec ce niveau-là de créativité et personne ne le sait. Et donc l'ambition de cette plateforme, Lago 54, c'était ça. C'était à la fois de rendre ces produits accessibles sur le marché français et puis de changer les regards sur cette création, de montrer qu'il y avait vraiment du haut de gamme. Et puis le troisième volet, qui est beaucoup plus invisible, c'était de leur permettre d'accéder au marché extérieur en les faisant participer à des salons, en les accompagnant sur des showrooms.
Et les mettre en relation avec des boutiques
avec
aussi.
Des boutiques, exactement. Donc ça, c'est un travail très laborieux que je fais toute seule, de manière bénévole. Je ne sais pas combien de temps je ferai ça, parce que là, je suis un peu au bout du rouleau. Mais oui, par exemple, tu as Studio 189, qui est une très jolie marque ghanéenne, qui vient d'arriver chez Centre Commercial à Paris. Tu as Pitchouli, qui fait des bijoux, des plastrons en Afrique du Sud, qui est une marque totalement éthique, qui est arrivée dans une quinzaine de boutiques en France et en Europe, qui va arriver à la boutique du Musée des Arts Déco, du Musée du Quai Branly. Donc, il y a quand même de bons résultats, ce qui montre que la sélection est assez qualitative.
Il y a une vraie demande.
Il y a une vraie demande, il y a une vraie curiosité. Et puis, quand les produits sont beaux, on se fout un peu de l'origine, quoi. C'est juste beau.
D'ailleurs, tu m'as ramené une paire de sandales et un très joli panier. Parle-moi de ces sandales, elles viennent d'Afrique du Sud.
Oui, elles viennent d'Afrique du Sud. Alors en fait, moi je dis Shabadabada pour les Izimbadada, parce que ça s'appelle des Izimbadada. Et c'est la sandale traditionnelle Zoulou. Et ça me permet justement, tu me permets de dire quelque chose d'important pour moi, c'est que ce que je défends, c'est des marques, c'est des labels, c'est pas des artisans. Eux-mêmes travaillent avec des artisans, mais eux, c'est des marques. Et souvent, on a l'impression qu'en Afrique, il n'y a que des artisans. Et il y a des labels. Et c'est ça que je défends. Donc ce type, qui s'appelle, la marque s'appelle Ifélé, lui s'appelle Régis Abba, c'est un Sud-Africain qui vit à Durban et qui a retravaillé le modèle traditionnel de la sandale Zoulou pour en faire un produit mode. Et donc voilà, donc c'est que des éditions limitées, d'ailleurs sur le site il n'y a que ça, c'est que des toutes petites séries. Ce qui permet aussi, moi c'est un peu mon positionnement, c'est que c'est un peu pour des filles qui aiment la mode et qui n'aiment pas... tu vois, c'est quand, comment ça s'appelle cette boutique Gang of Early Birds, qui ne vend que des marques qui ne sont pas encore vendues ici, un peu pour des gens...
C'est pour les filles qui aiment se démarquer un petit peu.
C'est exactement ça.
C'est le contraire d'Instagram, en fait, où tout le monde est habillé pareil. Quel est ton style aujourd'hui?
Oh mon Dieu, j'ai pas de style. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit métisse, et je pense que c'est un peu ça. Alors, est-ce que ça vient de mon histoire? J'en sais rien, mais... Je mélange beaucoup de choses. Je peux passer d'un truc très monochrome à un truc très mélangé. J'aime beaucoup les imprimés. Tu vois, par exemple, j'adore les pois. J'ai une robe bleu marine avec des pois blancs que j'adore, avec des manches ballons. Je viens de m'acheter un petit top d'une marque australienne que j'adore, qui est blanc cassé avec des petits pois noirs. J'adore ça. Mais après, je peux mélanger avec des rayures, que je peux mélanger. Donc, j'ai pas peur de ça. Mais après, tu vois, j'ai acheté la même robe que toi, grâce à toi,
la robe
même
rouge,
Zara. La robe tangerine, Zara, que j'ai acheté illico presto le même jour. Voilà.
Tu as toujours eu ce style, ou tu t'es affirmée avec l'âge?
Non, je me suis affirmée, mais je crois surtout que je me suis offert un peu de liberté, parce que quand tu rentres d'Afrique, ça va te faire rire, c'est que moi, à l'école, j'avais un uniforme. À l'école primaire, j'étais en petit Vichy bleu marine et blanc, et ensuite jupe bleu marine et un haut blanc. Alors nous, on mettait des sarouels, on rusait avec l'école, on négociait pour pouvoir mettre des sarouels d'hommes africains bleu marine et non pas des jupes. Donc déjà, on avait un peu plus de coulitude dans les pattes. Et quand je suis rentrée, quand je suis arrivée en France, j'ai dit à ma mère, donc comme je t'ai dit, je lisais le L, etc. Et pour moi, il fallait que je m'affirme comme française. Je débarquais dans un pays que je ne connaissais pas. J'emportais la nationalité, mais je n'avais jamais foutu les pieds, sauf l'été, une semaine par an, etc. Donc, il fallait que je devienne française. Et c'est passé par le vêtement. Et j'ai dit à ma mère, il faut qu'on aille chez Agnès B.
Parce que c'était... Elle incarnait...
Fin des années 80, ouais. Tu avais toutes les semaines, tu avais le petit gilet à pression, tu avais les t-shirts blancs un peu emmoltonnés, avec écrit Agnès B en noir. Et donc, je me suis acheté des uniformes Agnès B. Je suis passée de mon uniforme de l'école à mon uniforme de parisienne, mais qui n'était pas moi. Et aujourd'hui, mais jamais...
Pourquoi ce n'était pas toi?
Parce que j'arrivais d'un monde qui était d'abord totalement étranger à ça. Moi, j'étais, je te dis, hors l'école, j'étais avec des pantalons en wax qu'on achetait le week-end au marché, avec des trucs qu'on rapportait quand même. J'étais accro aux trucs Compagnie de Californie, tu sais, les suites. Mais c'était du grand n'importe quoi, tu vois. Et j'arrivais en France, à Paris qui plus est. Tu vois, j'aurais atterri dans une petite ville de province, peut-être que j'aurais été un peu plus décontractée, mais j'avais une pression de dingue, quoi.
Une sorte de pression sociale.
Oui, puis Paris, ça incarnait quelque chose de... Tu sais, quand tu fais ton éducation de française à travers le L et Marie-Claire, t'as une pression de fou, quoi. Mm-hmm. Et j'avais aucun référent. Ma mère était parisienne quand elle est arrivée en Afrique. Elle est arrivée de Paris. Et tu verrais des photos de ma mère débarquant en Afrique, les premières photos d'elle. Elle est avec un sac Hermès en brousse et avec un Kelly et avec un foulard Hermès autour du poignet. C'est ridicule. Et du coup, j'avais une énorme pression. J'avais ma mère qui incarnait la parisienne, quoi. Mm-hmm. Donc, il fallait moi aussi que j'incarne un petit bout de Paris.
Justement, tu me parles de ta famille. Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire familiale chez toi ou pas du tout? Est-ce que ta maman, si chic, t'a imposé des codes?
Non.
Pas du tout.
Non. Je pense que... Et puis d'ailleurs, ma mère s'est beaucoup métissée aussi au contact de l'Afrique. C'est une collectionneuse de perles. Elle fait plein de bijoux avec des trucs ethniques. Et elle a beaucoup mélangé. Je pense que ce que je suis aujourd'hui, même si on n'a pas du tout le même style, mais lui ressemble davantage dans l'esprit. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle est assez libre de faire... Enfin, elle a pu mettre des choses qui n'allaient pas forcément ensemble, qui n'étaient pas attendues en tout cas, et j'ai gagné cette liberté-là.
Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look?
Mon Dieu.
Oui, il n'y en a peut-être pas, Omar.
La colle, non, écoute, j'ai pas souvenir de ça. Non.
Tu t'es fait toute seule.
Oui, comment, je sais pas.
Comment choisis-tu tes tenues le matin?
Alors, je l'ai choisi la veille.
Toujours?
Oui, enfin, si c'est important, oui, je vais les choisir la veille. Et puis, si je n'ai pas des rendez-vous, tu vois, quand je suis journaliste ou avec Lago 54, je travaille beaucoup chez moi. Si je dois sortir dans le quartier, c'est même d'ailleurs un truc assez honteux, c'est que je suis assez monomaniaque. Et je suis monomaniaque
c'est
dans plein
dire,
de trucs.
Il faut tout dire
par exemple,
dans
en musique, si j'écoute un jour un truc qui me plaît, je peux l'écouter d'affilée pendant 6 mois.
Ah, moi aussi. Oui.
Voilà. Et en mode, c'est un peu pareil. Et l'année dernière, je me suis acheté... J'adore les imprimés léopards, les trucs d'animaux. Tu vois, les zèbres, le léopard, panthère, etc. Et l'année dernière, je me suis acheté chez Overstory une jupe plissée léopard. Je pense que dans mon quartier, on doit penser que je n'ai qu'une jupe. Je l'ai portée tout l'hiver. Donc, tu vois... Tu me demandes comment je prépare mon look. Quand j'ai un truc en lequel j'ai confiance, que j'aime, qui me va, dans lequel je me sens bien, je peux le porter tous les jours, je m'en fiche.
Quelle relation entretiens-tu avec ton dressing? Tu en es fière ou il t'indiffère? Ou alors, voilà.
Ouais, ça m'indiffère.
T'es pas une obsédée par, t'es pas obsédée par la mode, en fait.
Non, je suis pas du tout obsédée par la mode.
Tu me parlais du regard des autres. Est-ce que c'est le regard des autres te pèse? Est-ce que ça peut te, si on te fait une remarque, en disant, non, moi j'aime pas du tout comment t'es habillée, j'aime pas du tout ta jupe panthère.
Non,
mais ça te fait rire ou
Bah, ça, ouais, non, ça je m'en fiche royalement. Puis, non, vraiment, ça je m'en fiche. Non, ça je m'en fiche vraiment.
Est-ce que cela t'arrive quand même de te prendre la tête pour t'habiller? Justement, t'as un événement, t'as...
Ouais, oui, si, bien sûr. Après, tu sais, le fait d'avoir vécu en Afrique fait qu'il y a encore quelques années, je savais pas... C'est surtout l'hiver. L'été, ça va. L'hiver, je sais pas m'habiller. Mais ça, c'est un truc d'enfant d'Afrique, tu vois. Mettre des collants, quand je suis arrivée, j'ai mis, je crois, 10 ans à comprendre comment ça marchait sous un pantalon... j'ai découvert les doudounes vraiment chaudes il y a 4 ans et j'ai engueulé tout le monde en disant mais pourquoi ça fait 20 ans que j'ai froid. Non, l'hiver c'est plus compliqué. L'hiver c'est plus compliqué.
Alors, pour tout le monde je crois. L'hiver c'est toujours plus difficile d'être élégant.
Ouais, mais même tu sais, je ne sais toujours pas, par exemple si je mets un pantalon l'hiver, j'ai presque envie de demander aux filles mais vous faites comment avec, si vous mettez des talons, est-ce que vous mettez des collants, est-ce que c'est des mi-bas, est-ce qu'ils vous arrivent à la cheville, je sais pas faire, tu vois.
Et ça t'arrive de demander des conseils? Tu travailles dans, tu connais pas mal de rédactions en plus.
Ouais, non, c'est pas dans les rédactions, je vais trouver des conseils, non.
Quel a été ton pire fashion faux pas? Est-ce que t'as un souvenir à nous donner pour Chiffon?
Écoute, c'est très ancien ça, si j'ai un fashion faux pas, c'est... Comme maintenant, je sais vraiment ce qui me va et tout ça, je pense que... Et puis, j'ai vraiment des uniformes, tu sais. J'ai mes uniformes pour l'hiver, mes uniformes pour l'été. Non, un fashion faux pas, c'est quand je suis venue une fois. Quand je vivais en Afrique, je suis venue une fois voir ma grand-mère à Noël. C'était ma première fois en plein hiver. Et ma grand-mère m'a emmenée chez Naf Naf, tu vois. C'était le summum pour moi. Ah ouais, j'avais 16 ans
à l'époque,
ou un truc comme ça.
C'était le truc hyper à la mode. Hein.
C'était ça, j'avais 15-16 ans. Je ne sais pas exactement l'âge, mais je pense que j'avais 15-16 ans. Et elle a voulu que je m'habille pour Noël. Et ben j'ai fait les choses en grand. Je me suis habillée comme un sapin de Noël. Et j'ai acheté un truc que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, que j'ai jeté immédiatement. Une espèce de top en stretch, en manchure bateau. Pas en manchure bateau, en colure décolleté bateau. Qui reproduisait, tu sais, les dessins un peu Hermès avec les trucs d'équitation, etc. C'était juste immonde. Et quand j'ai revu ce truc, je me suis dit, mais comment ai-je pu? Et je me souviens que j'étais mais la plus heureuse du monde.
Tu te sentais irrésistible.
Non, mais je me sentais absolument irrésistible. J'ai mis ça à Noël. Je devais juste être monstrueuse.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais?
Comme je pense que nous sommes tous des mutants et que par conséquent, je ne sais pas quelle personne je serai dans 4-5 ans. Je ne pense pas qu'on puisse dire... jamais, tu vois. Mais là, aujourd'hui, tu me verras jamais avec des Santiago, par exemple. Ça, je peux pas. Non.
C'est le côté rock, cow-boy.
Ouais, cow-boy. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, où est le cheval, quoi, tu vois.
Et le vêtement qui ne te quittera jamais? Est-ce que tu as un vêtement doudou, une valeur sûre, un truc dans lequel tu te sens irrésistible?
Irrésistible, j'irai pas jusqu'à dire ça. Mais dans lequel je me sens bien, c'est les djellaba, d'une manière générale. J'adore ça. Des belges, ça peut être des trucs tout simples, marocains que tu rapportes du Maroc, ou sur, j'aime bien un site, Muzungu Sisters, où ils vendent, d'ailleurs pas très très cher, des jolis djellaba, ou des djellaba carrément plus sophistiqués que tu peux porter en soirée, l'été avec des spartiates, tu vois, un peu bijoux, quoi. Ça, j'adore ça.
Est-ce que tu portes des jeans?
Alors, le jean.
Est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie?
Pas du tout.
Ah, là, alors, on sent le cri du cœur, de désespoir.
Ouais, le cri de désespoir. Mais c'est même pas contre le jean, en fait. C'est plus contre moi et les aléas de la silhouette, quoi. Tu vois, et je pense que beaucoup de femmes t'ont répondu ça, j'imagine. Que c'est fonction de la silhouette. Écoute, quand je suis mince ou quand je suis bien, on va dire, j'ai des jeans qui sont plutôt des flares. Où là, il y a 2-3 saisons, tu sais, il y a eu le retour du jean mom taille haute. Ça m'allait bien parce que j'ai des fesses et j'ai des cuisses. Je suis cambrée, je suis très cambrée, comme une Africaine. Donc du coup, sinon, dans n'importe quel jean, tu mets une botte de foin derrière, voilà. Ou sinon, il faut aller voir un tailleur, c'est ridicule. Et quand j'arrête le sport, donc par exemple, depuis que j'ai créé ma boîte, je n'ai plus de vie, donc je ne peux plus faire de sport. Rentrer dans mes jeans, c'est un peu compliqué.
Ça devient compliqué.
Et que j'ai pas envie, alors c'est pas... J'ai pas envie d'adapter les jeans à ma morphologie, donc... Mais ça reviendra. Ça reviendra.
Est-ce que l'accessoire est important pour toi ?
Ouais, c'est le plus important, je crois.
Qu'est-ce que tu préfères, les sacs, les chaussures, les bijoux ?
Les chaussures et les bijoux. Je suis pas très sac. J'ai pas des... Qu'est-ce je porte toujours la même chose.
Qu'est-ce que tu penses des heat bags ?
J'en ai jamais eu. D'abord, je n'aime pas porter la même chose que les autres. Donc, l'idée de porter un truc que tout le monde va voir... Alors, s'il faut que je te raconte un truc, Valérie.
Raconte.
C'est une parenthèse, mais ta robe, l'autre jour, donc la fameuse robe rouge Zara, que j'ai achetée, je te dis, le même jour, c'était très drôle parce que je l'ai portée le samedi qui a suivi. Et dans la rue... J'ai croisé une fille avec la même robe. Et quand on s'est croisés, elle m'a regardée. On a éclaté de rire. Et elle m'a regardée, fait « Vous avez une très jolie robe. » J'ai dit « Vous aussi. » C'était trop drôle. Mais sinon, hormis ça, et je trouve que là, c'est un vrai clin d'œil. Et c'est super sympa parce qu'en plus, ça crée de l'interaction avec les gens et du plaisir et du partage. Mais sinon, j'aime pas l'idée de porter la même chose que les gens. Donc non, pas de heat bag. J'ai jamais acheté un truc qui était à la mode. Tu vois, j'ai apporté le sac que j'ai aujourd'hui, c'est un vieux Lancel, mais que j'ai acheté dans une boutique de vintage qui
me datait des années 60. D'ailleurs. Je l'ai remarqué tout de suite quand t'es rentrée.
Mais voilà. Et je l'ai depuis 4 ans, je le porte tout le temps.
Très chic.
Je porte des paniers, j'aime bien les petits mochila, tu sais, les petits trucs en raffia qui viennent d'Amérique latine. Non, j'aime bien des choses un peu décalées.
Où trouves-tu tes inspirations fringues ? Presse papier ou Internet ?
Internet. Ce qui est un comble pour une fille de presse. Non, après, je peux trouver évidemment des images. Il y a des photos que j'aime bien. Tu sais, dans le L, des fois, je déchire une photo parce que ça m'inspire.
Ça, c'est notre génération, hein. Déchirer les pages du L.
C'est ça. Ça nous fait un peu des mood boards, des trucs, des looks. J'aime bien. C'est pas forcément le vêtement, mais c'est l'allure que je vais bien aimer.
Ouais, tu t'attaches plus à l'allure
ouais. Des fois, c'est pas une pièce en particulier, mais parfois j'ai même les pièces chez moi, mais j'aime bien la manière dont c'est mis en scène. Et après, pour les produits, ça va plus être Instagram, où je vais regarder des trucs, où je vais découvrir via des blogueuses ou des influenceuses. Enfin, plutôt des influenceuses sur Instagram, je vais découvrir une marque, tu vois. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, peut-être que toi tu connais depuis 10 ans, mais moi je vais découvrir Mara Hoffman.
Et, très joli.
Et je trouve ça tellement joli, c'est hors de prix, mais c'est super joli. Et ça, c'est par des influenceuses, tu vois, que j'ai découvert ça.
À quelle fréquence achètes-tu des fringues ?
Oula, j'en achète pas beaucoup en fait. Je te dis, j'ai acheté ma robe rouge il n'y a pas longtemps. Avant, je m'étais acheté un petit top. Chez POS, une marque australienne que j'aime beaucoup. Mais non, j'achète pas beaucoup. Mais parce qu'en fait, j'ai quasiment tout. Après, je parlais d'uniforme. L'été, j'adore les kajaks. Bon, chaque saison, je m'achète une paire de kajaks parce que c'est mon cadeau que je me fais à moi-même. Mais objectivement, j'en ai pas besoin.
Tu achètes en ligne ou en boutique ?
J'achète en ligne, beaucoup. Alors, pas les chaussures. Les kajaks, je vais les acheter en boutique. Mais sinon, j'achète beaucoup en ligne.
Pourquoi ? Par manque de temps ou parce que c'est plus pratique ?
Par flemmardise.
Quels sont tes spots fringues ?
Je te dis, des sites internet.
Quelle marque ?
Quelle marque ?
Tu sais, les marques valeurs sûres. C'est-à-dire, t'as envie de t'acheter un truc, te faire plaisir, tu te dis, tiens, je vais aller là. Ou t'es plutôt infidèle ?
Je suis pas très fidèle, ouais. Mais à l'époque, j'aimais beaucoup Sessoun. J'aime bien Sessoun. C'est joli. Il y a des basiques. Mais sinon, je suis plus sur des marques qui sont pas forcément très connues. Tu vois, comme Mara Hoffman, comme POS, cette petite marque australienne que j'aime beaucoup. Qui commence à monter. Je m'achèterai quasiment tout là, ce qu'il y a sur leur site. J'aime vraiment beaucoup.
Quel est ton dernier achat ? Donc, c'est le fameux t-shirt ?
Non, c'est ta robe.
C'est la robe rouge.
C'est ta robe.
Zara. Et ton prochain achat ?
Tu sais s'ils sont en rupture de stock ou pas ?
Je sais pas encore.
Tu sais pas. Si tu l'as raffiné, ça.
Mais il y a beaucoup de femmes alors au sujet de cette robe là. Je la mettrai en photo sur mon Instagram pour que les gens puissent
visualiser.
En fait, beaucoup de femmes m'ont dit j'adore, mais ce n'est pas pour moi.
Pourquoi ?
Trop rouge, trop coloré.
Mais tu sais que c'est la première fois de ma vie que je mets du rouge. Ma mère a vu là une photo et elle m'a dit mais t'as jamais mis de rouge ? Et j'ai 46 ans. C'est la première fois. Parce que j'ai une peau super blanche, je te dis blanche comme un bidet, tu vois, je bronze pas.
Mais ça va à tout le monde, cette couleur.
Et en plus, elle a un rouge avec un poil, une pincée d'oranger. Oranger, ouais. Donc c'est pour ça que je dis un peu tangerine. Et finalement, ça marche très bien.
Et je ne sais pas si tu as vu le mannequin Zara qui porte la robe. C'est une femme qui a la peau, une black, une africaine, qui a la peau très, très, très noire. Elle est magnifique.
Ouais. Comme quoi, le spectre est large. Ça va à tout le monde.
Exactement, c'est ce que je dis.
Donc, il faut oser. Tu vois, j'ai jamais mis de rouge. J'ai osé parce que la forme, le truc sur toi tombait super bien. Et tu vois, la preuve, toi et moi, on n'a pas du tout la même silhouette. Moi, ça me va aussi très bien. Ça va à tout le monde.
Ça va à tout le monde. Ouais. Et justement, un conseil mode, je fais une petite parenthèse. Si quelqu'un, une femme, te dit « Oui, je trouve pas mon style », qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Oser ? Essayer ?
Oui. Ouais, essayer de jouer avec les accessoires. Au moins, si elle n'ose pas, qu'avec les accessoires, des trucs qui je sais pas, ça peut être des trucs de famille, des trucs qu'elle a rapportés de voyage, des trucs qui lui parlent, qui lui ressemblent. Mm-hmm. Même sur un t-shirt blanc et un pantalon noir, tu vois, qu'elle commence à jouer avec ça.
Mais même sur un t-shirt blanc, on peut mettre une broche.
Une broche, un gros collier. Quelque chose qui la raconte.
Est-ce que tu as quand même une fringue de tes rêves ?
Oh, j'ai toujours rêvé d'Alaïa. Mais c'est un basique. Enfin, c'est, je pense que je ne suis pas la première à dire ça. C'est des coupes qui sont... D'abord, c'est tellement féminin. Je trouve que toutes les femmes qui portent du Alaïa, il n'a pas habillé que des femmes filiformes. Hein, il a habillé aussi des femmes qui avaient des formes.
Il sublimait la femme.
Il sublimait les femmes. Il n'y a pas une femme habillée en Alaïa qui est moche. Quoi.
Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus ?
Ça, c'est un vrai problème. Alors, ils sont entassés dans des valises. Je les donne, je fais des vides-greniers chez moi. Donc, les copines viennent, prennent, partent avec ça. J'ai fait ça beaucoup quand, tu sais, j'ai été journaliste, mais j'ai été rédactrice beauté. Donc, je recevais des tonnes de produits et donc, je faisais des vides-greniers beauté.
Donc, soyez copine avec Emmanuel.
Alors, j'en fais plus au grand désespoir de mes amis. Et du coup, j'en profitais, je mettais un portant à vêtements. Pas un vrai portant, je demandais à mon pressing de me prêter son tourniquet, tu sais, et je mettais les vêtements dessus. Et voilà, donc je faisais ça. Et puis, là, ils ont retiré, il n'y a pas longtemps, il y a une église dans mon quartier où ils avaient où tu mets des vêtements à l'intérieur, des grandes boxes extérieures, et ils les ont retirés. Donc là, je ne sais pas.
Mais il n'y en a plus dans Paris, hein, d'ailleurs.
Il n'y en a plus. Ouais. Souvent, tu en avais juste à la sortie des églises, et c'est là où j'en mettais. Je faisais des grands sacs, je pliais les vêtements, et je les mettais là-dedans.
Et la question chiffon, quelle est ta définition de l'élégance ?
Comment dire ça ? Le contraire de la construction, le contraire du truc trop pensé, le contraire du « je veux raconter une histoire qui n'est pas moi, je veux créer un effet, mais c'est pas moi », et tu vois ?
C'est l'effortless, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est un peu le « less is more » aussi. C'est un peu ça. Le truc qui est... L'élégance, ce serait le truc qui n'est pas trop pensé, quoi. Et une fille que j'adore, c'est Lauren Newton, qui pour moi est un peu l'incarnation de ça, tu vois. Qui va se mettre un tailleur pantalon d'homme avec des tongs, qui va se mettre une robe de soirée avec des baskets, le truc facile, mais qui lui ressemble.
Toi, tu le ferais, pantalon d'homme ? Enfin, tailleur pantalon homme... Oh là là, j'ai du mal ! C'est le dernier épisode de toute la saison. Le tailleur... Pantalon classique d'homme avec des tongs, est-ce que tu le ferais ?
Ouais, avec des tongs bijoux, tu vois, pas forcément des Havaïnas, quoi.
Ah, c'est très confortable.
Mais c'est super confortable, ou alors des dorés, ou alors des trucs que j'aurais un peu customisés. Mais j'aime bien l'idée des tongs un peu bijoux, tu vois, Ouais.
Alors pour finir, tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Si tu étais une couleur ?
Le bleu marine.
Si tu étais une forme de pantalon ?
Le flair.
Si tu étais une chaussure ?
Des kajaks.
Si tu étais une matière ?
Du lin.
Si tu étais un pull ?
Un col V un peu façon Birkin.
Si tu étais un sous-vêtement ?
Qu'est-ce que je serais ? Je sais pas, j'aime bien la... Je peux te dire une marque ?
Bien
ou pas ?
Sûr, bien sûr.
J'aime bien la marque de lingerie Badine. J'aime bien, elle fait des petits soutiens-gorge qui sont super jolis. Ouais, c'est très joli.
Maillot de bain, une pièce ou deux pièces ?
Deux pièces. Je profite du fait que j'ai encore le ventre plat.
Si tu étais un créateur, hein, ou une créatrice ?
Oh là là, mon Dieu.
Tu nous parlais d'Alaïa tout à l'heure ?
Ouais, ben Alaïa.
Si tu étais une héroïne ?
Une héroïne ?
Qui est ton héroïne ?
Quand j'étais ado, j'étais fascinée, passionnée par Sarah Bernhardt, parce que la liberté, parce que la liberté. J'aime bien les femmes qui sont libres.
Merci Emmanuel.
Merci à toi surtout.
Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Le Bon Coin ainsi que le magazine Gradia. Et comme c'est le dernier épisode de la saison, je tiens à vous remercier, vous chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Je vous souhaite un très bel été, rendez-vous en septembre prochain pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.
Si vous avez raté un épisode de Chiffon, voici les extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Diane Tonéati.
Tu vas décrire mon style comme romantico-rock.
Romantico-rock. Ah, c'est la première fois qu'on me l'a fait.
Bruno Salomon.
Quel est ton dernier achat?
Bah, c'est cette chemise.
Très jolie. Le ciel. Je vais te prendre en photo pour Instagram, d'ailleurs.
D'accord, mais tu pourras la repasser avant la photo.
Avec réponse à tout et goujant.
Valérie Tripp, interrogée par Pauline Grisoni.
Je trouve que l'accessoire finit une tenue. Un joli sac, mais joli sac ne veut pas dire cher. Dire porter un panier en hiver, un filet aussi, j'adore les filets. Ouais. Ça, c'est la fille au détail. J'adorerais qu'on dise ça de moi. Ouais, c'est la fille au détail.